bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahi la yumiddin wa ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidna ilma ya karim rabbi zidna ilma ya karim rabbi zidna ilma ya karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أخرجه البخاري Les chefs en islam dans les deux, nous remercions Allah Azza wa Jal d'abord bien sûr qui nous donne le tawfiq de pouvoir s'asseoir quelques instants après la salat accomplie en congrégation pour étudier quelques paroles de son Nabi alayhi salat wa salam. C'est une chance, c'est un honneur énorme qu'Allah Azza wa Jal accorde à un musulman que de pouvoir tirer un peu de son temps pour écouter ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à ses compagnons il y a 1500 années. De nos jours, nous écoutons les informations, nous regardons les émissions, on regarde Capital, on regarde je ne sais pas quelle émission, quel reportage qu'il y a, Wallahu A'lam, avec toutes les chaînes qui existent. On écoute les paroles des hommes et on aime écouter les paroles des hommes. On aime écouter ce que les hommes ont pu tourner, les reportages, les madrièches, tout ce qu'ils font. Hein, ça procure du plaisir à certaines personnes. Mais là, quand on écoute les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, ben ça c'est un autre niveau ça. C'est incomparable. Ça c'est les paroles de la meilleure des créatures qui a été envoyée sur la terre. C'est les paroles de la meilleure personne, le ashraful makhlouqa, la meilleure créature qu'Allah Azza wa Jal a créée. Il n'y a pas une personne qui a un rang, un honneur, comme le prophète alayhi salatu wassalam, ni parmi les djinns, ni parmi les malaïka, parmi les anges. Et cet homme-là, al-Nabi alayhi salatu wassalam, nous a annoncé il y a 1500 années beaucoup de choses. Il nous a raconté beaucoup de choses sur le passé, sur le présent, sur le futur. Et parmi les choses que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné sur le futur, ben, il y a ce qu'on appelle les signes de la fin des temps. Il y a ce qu'on appelle les signes de la fin des temps. Et rappelez-vous, il y a, la dernière fois, subhanallah, ça remonte, hein, parce qu'on avait écrit la date, il y a peut-être un mois et demi ou deux mois de cela, subhanallah, on avait abordé un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam expliquait quel doit être le comportement d'un responsable face à une personne, yani naqisul aql, à une personne qui est moins intelligente, on pourrait dire un ignorant qui l'interpelle. On a vu une personne qui a été voir Omar ibn al-Khattab dans une assemblée, c'était quelqu'un qui a triché. Il a demandé à une personne de lui donner la possibilité d'accéder au majlis de Omar. Et une fois assis dans le majlis, il s'est levé et dit « Omar, tu agis de telle sorte, de la sorte, de la sorte. » Il a apostrophé Omar ibn al-Khattab d'une manière insolente. Et Omar ibn al-Khattab, tout le monde connaît quelle est la nature, le tempérament d'Omar. Omar était tellement en colère qu'il était prêt à s'emporter contre cet homme-là. Et puis il y a une personne, un sahaba qui était dans l'assemblée, j'ai plus le nom en tête, ce sahaba, il a dit que Ya Amir al-Mu'minin, il a rappelé un verset du Coran dans lequel Allah Azza wa Jal explique comment agir avec les jahils. Wa a'rid 'anil jahilin. Et là, Omar ibn al-Khattab, il a dit que Oh Amir al-Mu'minin, cet homme-là, c'est un jahil. Celui qui ose te parler ainsi, qui ose parler ainsi d'une manière générale, pas parce que c'était Omar ibn al-Khattab, celui qui ose interpeller un amir, un responsable ou un dirigeant et tout, avec des propos aussi incohérents, aussi respectueux, c'est un imbécile. C'est un jahil. Il dit, oh Omar, cet homme est un jahil, donc agis comme Allah t'a demandé. Il dit, n'écoute pas ta colère. Hein, il voulait dire ça. N'écoute pas ta colère, même si tu es en colère, tu as raison de le faire, mais écoute les conseils d'Allah. Et immédiatement, il dit, Wallahi ma jawazaha Omar hina talaha. Immédiatement, lorsque Omar a entendu ce verset, il s'est arrêté. Wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala, akhraj al-Bukhari. Et Omar avait l'habitude de respecter à la lettre chaque parole d'Allah. Il suffit qu'on lui ait dit, attention, Allah Ta'ala a ordonné que quand un imbécile, c'est pas bien de dire ça, quand un ignorant vous interpelle, alors éloignez-vous de la personne. Hein, ne répondez pas, n'entrez pas dans les débats, parce que c'est quelqu'un qui à la base n'a pas d'istidad.
c'est quelqu'un qui n'a pas de conception correcte des choses, ni sur le plan de la foi, ni sur le plan des mu'amala, de akhlaq, du comportement. Donc, ne vous mettez pas à leur niveau. Si quelqu'un, il a, alhamdoulilah, un certain rang, et il y a quelqu'un d'ignorant qui l'interpelle, ben, il ne faut pas se mettre au niveau de la personne, parce que quand on a fait un ignorant, ça va être des paroles qui n'ont pas de limite, ça peut aller jusqu'au mensonge, ça peut aller jusqu'aux insultes, ça peut amener vers des calomnies, vers des qila wa qal, vers des colportages de paroles, etc. Et puis le nœud de la personne sera mis en jeu. Bon, on ne revient pas sur le hadith de la dernière fois. Et là, Omar ibn al-Khattab, immédiatement, malgré son tempérament, mais quand il entend que Allah dit qu'il faut agir comme ça, il délaisse sa nature, son tempérament, sa colère, et il obéit à Allah Azza wa Jalla. Donc ça, c'était le comportement du Amir face à un ignorant. Maintenant, dans le hadith, les deux hadiths qu'on a vus aujourd'hui, c'est exactement, pas le contraire, mais c'est dans le sens inverse. C'est comment un mu'min doit agir envers son Amir. Comment un musulman doit agir envers celui qui le dirige. Et dans le premier hadith, et je vous assure, il n'y a pas de coïncidence dans l'islam, mais c'est des hadiths qui ont l'air d'être extrêmement d'actualité, hein, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe dans les pays arabes, subhanallah. Ben, le hadith là explique quelle doit être la réaction d'un musulman face à l'oppression. Et le prophète alayhi salatu wa sallam va annoncer dans le hadith que viendra une époque où vous constaterez beaucoup d'injustices de la part de vos dirigeants. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, subhanallah, il y a 1500 années, à une époque où c'était lui le amir, al-Nabi alayhi salatu wa sallam, et après lui c'était qui? Abu Bakr, le meilleur des hommes après lui. Après lui c'était qui? Omar ibn al-Khattab, celui qui, selon les ulama, représente la moitié de l'islam par sa force, son iman, son yaqin, son ilm. Après, c'était qui? Uthman ibn Affan, le Nourain, celui qui avait une telle pudeur que même les anges avaient honte de lui. Après, c'est qui? Ali ibn Abi Talib, un proche, quelqu'un de la famille du prophète. À l'époque de ces gens-là, il n'y avait aucune injustice. Et on ne pouvait pas imaginer que viendrait une époque où des mu'mines, des musulmans, agiraient de manière injuste envers la population. Et le prophète alayhi salatu wasalam l'a annoncé. Le hadith dit bien que le prophète dit que innaha satakunu ba'di athara. Vous verrez, la traduction est approximative, hein, après moi viendra une époque, viendra des époques où vous constaterez des athara, les injustices. On expliquera bien, inshallah, le terme athara. C'est plus que volme. Wa umurun tunkirunaha. Et vous verrez des choses qui vont vous déplaire, hein, venant de la part des dirigeants. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُ Oh, prophète d'Allah, comment doit-on agir alors? Alors, tout d'abord, on va essayer d'expliquer, on va avancer étape par étape, le terme que le prophète alayhi salatu wa sallam dit, إِنَّهَا تَتَكُونُ بَعْلِ أَثَرَ. Vous allez voir des athara à une époque. Les athara, c'est un peu comme le volme, un peu comme l'oppression. Les mufassirin expliquent que ça, c'est de la part de le waliyul amr, de la part du dirigeant, le amir al-mu'minin, celui qui dirige un pays de musulmans, lorsque cette personne abuse sur les biens de la population. Cette personne profite des biens de la population pour ses intérêts personnels. Il s'habille bien, il mange beaucoup, il a de beaux châteaux, de beaux palais, sa famille, ses proches, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et le peuple, on pourrait dire, crève la faim, ou crève la dalle, comme on pourrait dire. Le peuple est complètement démuni. Le peuple est complètement démuni alors que le dirigeant, lui, il accapare toutes les richesses. Pensez-vous que, na'oudhou billah, on trouvait ce cas de figure à l'époque du prophète, là wallah. À l'époque des khulafa et rachidin, là wallah. Et oui, le prophète annonce quelque chose qui va avoir lieu, quand on ne sait pas, mais un jour, c'est-à-dire après son départ. Et exactement, wallah musta'an, on ne parle pas d'actualité. Ça c'est clair, on ne parle pas de politique, d'actualité dans une masjid, mais à nous d'avoir une lecture des choses éclairées. À nous de voir que, subhanallah, dans les wahyayn, dans les révélations que le prophète a apportées, dans ses explications, il y a la description de la situation du monde jusqu'à la fin des temps. Tout ce qu'un homme a besoin de savoir, il le trouvera dans la parole d'Allah et dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc le prophète a dit que c'est le athara qu'on va constater un jour, c'est quand annahu yastawli ala al-muslimina wilatun, hein, des gens qui dirigeront des musulmans et qui utiliseront leurs biens dans différentes voies en privant la population de leurs droits. Ils ne donneront pas le droit à la population et ils vont utiliser ces biens-là comme bon leur semble, c'est-à-dire de manière injuste, sans qu'ils n'en aient le droit. Alors, les sahabas demandent au prophète d'Allah, quand cette époque viendra, comment le musulman devra agir? Ya Rasulallah, fama ta'muruna. Voici, ça me dit que tu adouna al-haqqa alladhi alaykum. Quant à vous, vous devrez jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire vous devrez en permanence accomplir votre devoir. Le devoir du musulman, le devoir du citoyen, hein, vous devez le faire, même si au-dessus de vous, il y a des gens qui vont faire preuve d'injustice. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu une injustice que vous serez en droit de faire des choses qui ne sont pas acceptables. Bal isbiru, wasma'u, wa'ti'u. Parce que le fait d'obéir au amir, c'est un principe extrêmement important dans la charia. Bon, maintenant, bien sûr, il y a un masla très important, qu'on appelle bab al-khuruj al-imam. Là, c'est quelque chose de très grave, ça, hein, de renverser. Bref, on ne va pas parler de tout ça, mais ce qu'on vient dire, c'est qu'à condition, bien sûr, il faut que ce soit un amir légitime. Si quelqu'un même est... On a du mal à ne pas parler de faits d'actualité, mais il faut qu'il soit légitime. D'accord ? Il faut qu'il soit légitime, il a été choisi par le peuple, ou alors, c'est mulk, c'est une monarchie, et c'est des gens qui méritent. D'accord ? Et ils sont descendants directs de l'autre roi, de l'autre amir, ça, d'accord ? Et ce qui est, maintenant, si on avait expliqué dans d'autres circonstances, ce qu'Allah Azza wa Jal attend du amir, c'est énorme. Et le hisab qu'ils auront à rendre le jour de Qiyama, c'est daqiq. C'est tellement précis, c'est tellement difficile, que si de nos jours quelqu'un savait quelles seront les questions que le amir, que le dirigeant aura à répondre le jour de Qiyama, personne ne souhaiterait être roi ou dirigeant. On va dire que oui, lui c'est le grand chef, lui il a le palais, il a tout ça. Attention, il a peut-être des choses visibles, mais le coup il peut gagner derrière s'il ne respecte pas les engagements. Ce qu'il aura à répondre le jour de Qiyama, c'est énorme. D'accord ? Et dans notre din, subhanallah, quand on explique comment le amir doit agir envers le ra'iyya, envers la population, on a expliqué ça dans d'autres circonstances. Une fois, le prophète, alayhi salatu wa salam, envoie un sahaba récolter l'argent de la zakat. Hadith très connu. Le sahaba, il revient, il dit, voilà, j'ai récolté ça, ça c'est la zakat, et ça c'est un petit cadeau pour moi. Bon, il était très en colère. Il a dit, comment ? Comment un petit cadeau pour toi ? Dans ce sens, il a dit, un petit cadeau. Il a dit, que une parole que le prophète m'a dit, c'est magnifique, d'éloquence. Il a dit que si cet homme était resté assis dans la maison de son papa et de sa maman, est-ce que vous pensez que ces gens lui auraient donné un cadeau ? C'est-à-dire qu'il n'a pas volé de la zakat, lui, hein ? Il l'a donné, si on devait donner, je ne sais pas moi, 2000 chameaux, il a ramené les 2000 chameaux. Je dis un chiffre au hasard. Et puis, il a gagné 28 chameaux. D'accord ? Il dit que si cet homme-là n'avait pas eu une responsabilité de ma part, pensez-vous que ces gens-là l'auraient aimé, lui auraient donné des cadeaux ? Non ! C'est bien parce qu'on lui a accordé une responsabilité. Et en aucun cas, quelqu'un qui a une responsabilité ne doit accepter des cadeaux, des pots de vin, tout ce qui peut faire en sorte que la population aura des affinités avec lui. Et ça, c'est un principe azim, c'est un principe primordial. Ce qu'on appelle, on retrouve ça dans beaucoup de pays, pas que dans les pays en voie de développement. Prise quoi ? Prise de catch ? Prise illégale d'intérêt. Lisez les journaux de beaucoup de pays et on retrouve toujours prise illégale d'intérêt, prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire favoriser quelqu'un par rapport aux affinités que vous avez avec lui. Le prophète m'a interdit à une personne de favoriser, et il y a d'autres hadiths, d'autres histoires qui rejoignent ça, mais ce n'est pas le but du hadith. Le prophète m'a interdit à un amir de prendre parti d'une personne, de ne pas faire preuve d'impartialité. C'est-à-dire que s'il a des affinités avec quelqu'un, il va lui donner des choses. Ou si quelqu'un a été correct envers lui, il y aura une certaine reconnaissance. Et quelqu'un lui a donné un cadeau, ben, la prochaine fois, lorsqu'il fera un jugement, il aura un regard beaucoup plus miséricordieux de sa personne. Tout ça, c'est des choses qui sont complètement interdites en islam. Et encore, le prophète a annoncé comment grave est le péché du arrachi, celui qui achète les gens, ou celui qui se fait acheter. Celui qui achète les gens, on appelle les pots de vin, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qu'ils ont totalement. C'est-à-dire que l'islam, subhanallah, a accordé une certaine légitimité au amir, a accordé des devoirs de la part du ra'iyya, de la population, envers le amir. Mais en même temps, ce que le responsable a comme devoir envers Allah, par rapport au manzila, au statut qu'Allah lui a donné, subhanallah, c'est tellement précis, comme je vous dis, que c'est vraiment que Allah a choisi quelqu'un pour le mettre à sa place. Donc on comprend bien que c'est un principe extrêmement important dans la religion. وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ. Le prophète dit que, et vous, qu'est-ce que vous devez faire de votre côté ? Levez les mains et demandez à Allah Azza wa Jal de rétablir la justice. Qu'Allah Ta'ala donne la guider à ceux qui vous dirigent afin que ces personnes-là retournent dans le droit chemin. Et les ulama, ils expliquent que le prophète a tenu à expliquer quel doit être le comportement du musulman face aux injustices de leurs dirigeants. Parce qu'il savait que c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Quand une personne travaille et il voit son argent aller ailleurs, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Là, on voit toute la psychologie de notre prophète, alayhi salatu wasalam. Il savait qu'est-ce qui attriste, qu'est-ce qui provoque des frustrations chez l'homme, et il a fini à expliquer quel doit être le comportement du musulman face à ce genre d'injustice. Et les ulama, rahimahumullah, ils expliquent que dans ce genre de situation délicate, l'islam a favorisé la sagesse. L'islam fait le maximum pour éviter l'anarchie, les effusions de sang, tout ce qui peut provoquer le trouble dans la Ummah. Et bien sûr, les hadiths, lorsqu'ils parlent de le respect du Amir, dit tant qu'on ne voit pas du kufr chez eux, on le considère comme Amir, comme responsable, tant que ces gens-là n'accomplissent pas des actions qui sont clairement identifiées comme étant du kufr. Le massacre est assez compliqué, mais ce qui nous intéressait, c'était de voir que le prophète a dit que celui qui doit subir des injustices de la part de son responsable, de son dirigeant, en aucun cas, il doit changer son comportement. Il doit continuer à obéir à Allah, à faire en sorte que la paix règne. Et comment est-ce qu'il demandera à Allah de lui accorder al-iwad? Il doit lever les mains et demander à Allah d'arranger la situation. Et là, bien sûr, on a dit que quand c'est un amir qui est, bien sûr, qui est légitime. Et notre prophète, alayhi salatu wasalam, dans le second hadith, il dit que celui qui fera preuve de patience, de sobre, face à ce genre d'injustice, le prophète m'a dit que innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Donc celui qui fera preuve de patience, le prophète alayhi salatu wasalam leur a dit faites preuve de patience et vous me verrez, vous me rencontrerez auprès du hawd, auprès du kawthar. Celui qui fait preuve de patience face à ce genre d'injustice, mais qui malgré cela continue à observer ses devoirs, il rencontrera le prophète alayhi salatu wasalam auprès du bassin de Kawthar, le jour de la résurrection, et ça veut dire qu'il va boire de ce bassin de Kawthar en compagnie du prophète alayhi salatu wasalam, le bassin dont tout le monde, plus ou moins, on a entendu quelles sont les descriptions ajib, extraordinaires de ce cadeau qu'Allah Azza wa Jal a accordé à notre prophète alayhi salatu wasalam. Inna a'atayna kal Kawthar. Maintenant, pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations, ça ne veut pas dire que quand il y a des injustices, ça c'est moi qui rajoute, quand il y a une injustice de la part du dirigeant, parce que le mu'min nous a fait sabalou Allah, aidez-nous et rien faire. Non, le prophète m'a dit dans d'autres circonstances que le meilleur shahid, c'est celui qui va dire la vérité à un amir et il se fait tuer. Ça c'est le plus grand shahid, ça. Parce que ça montre que le musulman, il doit avoir du caractère. Le musulman, ce n'est pas une personne soumise. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il doit être capable de dire la vérité en face. Si c'est haq, bien réfléchi avant, s'il n'a pas mal interprété, mais quand c'est la vérité, il faut avoir assez de courage pour le dire. Mais je vois c'est le contraire. Nous, quand on voit quelque chose qui ne va pas, ben, on va dire à tout le monde qu'il aura un ou la vie, un tel, il fait ça, un tel, il dit ça, et ça, mais devant le bouc, on ne dit pas rien. Salam, ça va, très bien, merci. On a peur. Alors que l'islam encourage à dire la vérité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, avec respect, de manière correcte, pas comme cet homme qui a été appelé Omar de manière insolente, non. Mais quand quelque chose ne va pas, il est du droit du citoyen d'aller voir son ami et de dire, voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas correct, voilà, il faut rétablir la justice. Et à tel point, le ami se doit d'accueillir n'importe quelle personne qui vient lui faire des réclamations, qu'il est cité dans certaines versions qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, lorsque Omar désignait des ministres, des amirs dans différentes localités, une des directives qu'il leur donnait, c'était quoi? Il leur interdisait de mettre des portes à leur demeure. Il ne faut jamais qu'un citoyen arrive et trouve une porte fermée. Impossible. Le amir se devait d'accueillir les gens n'importe quand. N'importe qui avait un chakwa, une plainte, il avait le droit d'aller voir le amir, et le amir se devait de le recevoir sans limite de temps, quelles que soient les circonstances. Ça, c'était, subhanallah, la parité et la justice, l'équité qu'il y avait entre le devoir et les droits, tant du amir que du ra'iyya que de la population. Et tout ça a fait que, subhanallah, pendant l'époque du prophète alayhi salatu wasalam et des khulafa al-rachidin, il y a eu une harmonie parfaite. Et c'est malheureusement à l'époque de Uthman ibn Affan radiallahu anhu que les munafiqin sont apparus en force et ils ont commencé à inventer, à mentir, à faire en sorte de lever différentes parties de la population. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam avait bien dit que le rempart au fitna, c'était qui? C'était Umar ibn al-Khattab. Umar, c'était Al-Bab. Ajib, ça, qu'on parle d'Umar. Que Umar, c'est la porte de fitna. C'est-à-dire que celui, avec son charisme, bi'idhnillah, par sa présence, il n'y aura jamais de problème dans la Ummah. Mais après son décès, quand la porte sera cassée, et là, les fitna vont entrer. Et après le décès d'Umar ibn al-Khattab, à l'époque de Uthman, il y a eu difficulté sur difficulté. Et il y a commencé à avoir une scission entre dans la Ummah, une division dans la Ummah entre les munafiqines qui essayaient de faire croire aux gens que Uthman abusait, etc., etc., et ceux qui étaient du côté de Uthman ibn Affan, ce qui a conduit, on ne va pas raconter l'histoire, à une armée qui est venue à Madina Munawwara et qui a assassiné Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, alors que celui-ci disait le Coran. Et dans les récits d'histoire, il dit que cette armée qui était rentrée à Madina Munawwara était une armée tellement nombreuse qu'ils étaient plus nombreux que Ahlul Madina. Ils étaient plus nombreux que la population de Madina. Et après l'assassinat de Uthman, le fitna s'est encore amplifié. Lorsque Ali ibn Abi Talib est devenu le Amir, là il y a eu une séparation, mais alors nette et distincte dans la Ummah, ce qui va conduire par la suite, avec interprétation et action des munafiqines, à une scission irréparable jusqu'au Qiyamah entre les chiites et les sunnites. Et tout ça, c'est à partir de l'assassinat de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Et quand Ali ibn Abi Talib est devenu Amir, certains étaient d'avis que, parce que Ali, c'est pas le but, hein, mais bon, comme on a abordé le sujet, hein, pour que vous compreniez c'est quoi un fitna et quelle est la source des fitna. Quand Ali ibn Abi Talib est devenu Amir, il a décidé de ne pas juger les meurtriers tout de suite. Parce qu'on ne savait pas qui étaient les meurtriers, ils étaient tellement nombreux, certains étaient déjà partis, d'autres étaient dispersés parmi l'Ahl al-Madinah, qu'on ne savait plus qui étaient les responsables du crime de Uthman ibn Affan. Donc, une partie de la population était avec Ali. Et une autre partie de la population était contre Ali. Ils ont dit que non, la première chose, c'est de juger les meurtriers et de venger le sang de notre Amir qui est décédé. Et là, il y a eu une scission, et là, il y a eu hein, des gens avec Ali, des gens avec Muawiyah. Mais il n'y avait pas d'affrontement. Les affrontements ont eu lieu, vous savez quand? Quand les hypocrites dans les deux camps, ils ont pu mettre en action leur plan. Leur plan, leur objectif, c'était quoi? C'était de créer la fitna de la Ummah, que les musulmans s'entretuent. Et Wallahu Musta'an, ils sont arrivés à leur fin. Alors qu'il y avait des sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, avec le akhlaq des sahaba, normalement il ne devait pas y avoir ce genre de bataille. Et les choses allaient dans le bon sens. Normalement il ne devait rien avoir. Mais quand les hypocrites, qu'il y a des hypocrites dans les deux camps, aujourd'hui il y a beaucoup hein, dans tous les camps, partout. Mais là, à l'époque aussi, il y avait. Il y avait des hypocrites dans les deux camps. Quand ils ont vu que Muawiyah et Ali, hein, ils ont commencé à... Ils se sont rencontrés, les deux camps, et il y avait des pourparlers, et ils voyaient que tout allait entrer dans l'ordre. Donc, leur plan était à l'eau. Enfin, le Zamzam a été à l'eau, le mauvais lot, d'accord? Pour eux, c'était fini. Elle dit donc, Ali, Muawiyah, ils vont se réconcilier. Ben, il n'y aura pas la division de la Ummah, et j'ose... Enfin, khair, inshallah. Les munafiqines, on savait c'était qui? Vous savez, c'était quoi à l'origine, hein, Wallahu musta'an. Et donc, lorsqu'ils ont vu que tout se passait bien, ils ont décidé de mettre en place le plan B. On va dire ça comme ça. La deuxième solution, c'était quoi? C'était de faire semblant que les hostilités commençaient. Ils s'étaient mis d'accord qu'à l'aube, certains d'entre nous, on va commencer à attaquer le camp de Ali, et le camp de Ali va répliquer. Entre Ali et Muawiyah. D'accord? Des soldats des deux camps, qui étaient des hypocrites. Et là, dans un des camps, on dit attention, le camp d'Ali nous attaque. Et de l'autre côté, on dit attention, le camp de Muawiyah nous attaque. Et dans la panique, chacun a vu comme si que la guerre avait commencé, et il y a eu la guerre, et il y a eu effusion de sang, et il y a eu des sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, qui ont été tués. Leur sang béni, leur sang mubarak, a touché le sol. Et lorsque Ali, Muawiyah, ils sont venus voir ce qui se passait, ils n'ont rien compris. Mais qui a ordonné? Qui a donné l'ordre aux musulmans de se battre? Qui a dit que la bataille devait commencer? C'est quelque chose qui se produit sans l'ordre des deux amirs, de Ali et de Muawiyah. Et depuis ce jour, cette brèche qu'il y a eu à cette époque ne s'est jamais refermée. Et la Ummah, malheureusement, elle est divisée entre deux tendances. Donc ça, on voit comment c'est quelque chose de sensible, ça. C'est le fait de garder l'harmonie de la Ummah, c'est quelque chose d'essentiel. Et le prophète Sassan m'a dit, hein, quand on parlait d'amir légitime, le prophète Sassan m'a dit que celui, que quand dans un pays, dans un pays où il y a des musulmans, il y a un amir qui est là de manière légitime, le vrai amir, et qu'une autre personne vienne, ou comme a dit, une personne vient et essaie de reprendre, de prendre le pouvoir, c'est-à-dire essaie de faire un, comment on appelle ça, un putsch. Quelqu'un essaie de renverser un amir légitime, le prophète a ordonné aux musulmans de le combattre. Interdit, interdiction à une personne de renverser un amir qui est là de manière légitime et qui agit correctement et que tout va bien avec le raïa, avec la population, et que quelqu'un a soif du pouvoir et quelqu'un veut prendre sa place, le prophète a interdit ce genre de choses. Le prophète a ordonné aux musulmans de résister, de combattre les tyrans. Donc on comprend bien, là on fait bien la part des choses. Je ne suis pas en droit d'entrer dans différents débats, mais là on voit bien, hein, quand il y a tyran c'est quoi, et quand il y a amir qui est légitime et qui veut respecter la sharia et qui veut respecter l'ordre d'Allah, qui fait en sorte que la sunna soit mise en pratique, là quel est le grave, le comportement. Donc on terminera avec ça. Donc la récompense de celui qui fait preuve de patience malgré ses injustices, c'est qu'il rencontrera le prophète alayhi salatu wasalam auprès du Kauthar, et il va boire du fleuve du Kauthar. Et enfin, en conclusion, ah, ça c'est une claque pour nous ça. En commentaire, le Mufassir dit que lorsque les musulmans voient que leur dirigeant agit de manière injuste envers eux, hein, ils ne doivent pas que pointer du doigt le amir. Ils doivent avant tout regarder le a'mal. Parce que lorsqu'il y a des mauvaises décisions qui sont prises, c'est les conséquences directes du mauvais comportement, des mauvais a'mal des musulmans. Quand on agit de manière incorrecte, quand on ne respecte plus l'ordre d'Allah, quand on dépasse les limites du haram, alors Allah Azza wa Jal voit que quand il y a des gens qui font preuve d'injustice, Allah Ta'ala fait en sorte que ce seront des injustes qui seront mis à leur tête, qui va les commander. Comme à la tête du Coran, « وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » Par rapport à ce qu'ils ont fait, les oppresseurs vont diriger maintenant les zalims. C'est les oppresseurs qui dirigent les oppresseurs. Ça, c'est une conséquence directe des mauvaises actions des musulmans. Lorsqu'il y a des mauvaises décisions, lorsqu'il y a des injustices dans la manière de diriger, c'est avant tout parce qu'ils ont eux-mêmes mal agi, ils n'ont pas respecté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple pour illustrer ça, c'est à l'époque des le premier fitna de l'histoire de l'islam, les khawarij, qu'on appelle aujourd'hui les ashab al-takfir. Malheureusement, ça existe toujours. À l'époque de Ali radiallahu anhu, il y avait un homme parmi les khawarij. Donc c'est des gens qui, bien subhanallah, c'est des gens qui sont déviés de l'islam complètement. C'était des gens qui pratiquaient la religion, mais à fond. Le prophète m'a dit que viendra une époque, et là aussi c'est un mu'ajjal, le prophète m'annonce ce qui va arriver. Viendra une époque, il y aura des gens qui auront tel principe, c'est-à-dire on ne va pas y rentrer dans les détails, les khawarij. Et le prophète dit que alors que leurs actions, là où, si on pesait leur a'mal avec vos a'mal, leurs actions pèseraient beaucoup plus lourd, et il y aura des signes de prosternation sur leur front. C'est-à-dire que des gens qui font l'ibadat d'Allah plus que les sahaba actuels, imaginez. Plus que les sahabas, donc ça c'est à l'époque de Ali ibn Abi Talib, des gens qui font beaucoup plus de bonnes actions que eux-mêmes, mais leur croyance est faussée dans le respect du amir, leur croyance est faussée. Et le prophète, non, le hadith continue, dit que donc quelqu'un parmi ces gens-là est venu voir Ali ibn Abi Talib, il a dit que وقال له انا رتو يا علي ما بال الناس انتقدوا عليك ولم ينتقدوا على ابي بكر وعمر. Oh Ali, explique-nous comment cela se fait-il qu'il y a des gens de la population qui se révoltent contre toi. Alors qu'à l'époque d'Abu Bakr et d'Omar, il n'y a jamais eu de révolte. Il veut faire comprendre à Ali que ben, tu as une part de responsabilité, oui ou non. Comment cela se fait-il qu'à ton époque, il y a tout ça, qu'à l'époque des califes avant Abu Bakr et Omar, il n'y a jamais eu tout ça. Regardez la réponse de Ali ibn Abi Talib. فَقَالَهُ إِنَّ الرِّجَالَ أَبِي بَكْرُ وَعُمَرُ كُنْتُ أَنَا وَأَمْثَالِ. Il a dit, vous savez, c'était qui les mu'minines à l'époque du khilafat d'Abu Bakr et d'Umar? C'était des gens comme moi et comme mes sahaba. Amma rijali fakunta anta wa amthalu. Il a dit, alors que mes ra'iya, c'est des gens comme toi. Pas où, hein? Ah ouais, bon, Mohamed. C'est des espèces comme toi et tes amis. C'est par rapport à ça qu'il y a des problèmes. Le problème ne vient pas du amir. Le problème vient des a'mal de ra'iya, de la population. À l'époque d'Abu Bakr et d'Umar, c'était bien. c'était des sahaba, des gens qui ont vu le wahi, qui ont vu le prophète alayhi salatu wasalam, qui avait un degré de taqwa inaccessible à nous, un degré de taqwa énorme, que si le paradis et l'enfer s'ouvraient, le ciel s'ouvrait, ils voyaient le paradis et l'enfer, leur iman n'augmenterait ni ne diminuerait, parce qu'ils ont iman du rêve, comme si qu'ils avaient vu le rêve. Mustawa iman jamais atteint dans le monde, dans l'humanité, dans l'histoire des civilisations. C'est pour ça que tout allait bien. Mais de nos jours, je suis éprouvé par des gens comme toi et tes semblables. C'est pour ça qu'il y a ce genre de fitna dans la Ummah. Et également à l'époque, et plus on allait dans le temps, plus ça s'empirait. À l'époque d'Umayyad, de Banu Umayya, il y avait un des rois de Banu Umayya, c'était Abdul Malik ibn Marwan. Là, il faut remonter un peu les pendules à l'histoire des Umayyad. Malheureusement, beaucoup de nos gens ne savent même plus l'histoire de notre religion. Ça, c'est grave, ça. L'histoire la plus complexe, la plus belle, c'est l'histoire de l'islam. En parenthèse, on avait un professeur de... subhanallah, quand on était étudiant, il disait qu'il y avait des étudiants en Amérique, ils avaient un professeur qui devait l'enseigner à l'université l'histoire de l'Amérique. Et Zouroza dit que je vous enseigne l'histoire de notre pays, mais notre histoire, elle est minime. Notre histoire, elle date d'un siècle. C'est rien. Il a dit, si vous voulez étudier une histoire longue, belle, complexe, remplie d'événements riches, c'est l'histoire des Arabes, l'histoire de l'islam. Ça, c'est une histoire avec un grand H. Malheureusement, nos jeunes, ils sont forts dans la PlayStation, dans la PSP, dans téléfoot, dans joie de foot, dans matinée de foot, dans foot de foot, tout. Mais demandez-leur qui étaient les quatre califes. Allahu Akbar. Je crains qu'on ne sait pas qui étaient les quatre califes, qui sont venus après les quatre califes, quelle était la phase intermédiaire entre quatre califes et l'Umayyad, qui sont venus après l'Umayyad. Malheureusement, le problème, c'est que nous ne sommes plus intéressés par notre histoire. Ça, c'est notre culture, ça. C'est notre dîn, c'est notre histoire. Bref. Donc, Abdul Malik ibn Marwan, donc, il a entendu, alors on retrouve le texte là, « Sami'a maqalat an-nas fihi ». Il a entendu que des gens, ils commençaient à se révolter contre lui. Ils disaient des choses contre le Amir, c'est-à-dire Abdul Malik ibn Marwan. Alors il a réuni les nobles, des gens intelligents, et donc il a fait un mashwara, il a dit que « Ayyuhan nas, aturiduna annakuna lakum mithla Abi Bakr Umar ». Il a dit « Oh, vous qui êtes là », c'était une tranche représentative de la population. Il dit que « Est-ce que vous souhaiteriez que moi, Amir, j'agis avec vous comme Abu Bakr et Omar agissaient avec la population ?» C'est ça qu'on veut. On aimerait que tu agis avec nous comme Abu Bakr et Omar agissaient avec les mu'minines. Or, tu ne le fais pas. Il dit « Qala, idha kuntum turiduna dhalik, fakounu lana mithla rijal ya Abu Bakr wa Omar. » Si vous voulez qu'on agisse de la sorte avec vous, ben vous, avant tout, essayez d'adopter le comportement des musulmans à l'époque d'Abu Bakr al-Siddiq et d'Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc, en conclusion, le charih, ceux qui commentent, a dit que quand nous voyons des injustices, avant de pointer le doigt vers chercher des boucs émissaires, des responsables, à nous de voir quels sont les manquements cumulés en nous qui ont fait en sorte qu'Allah Ta'ala a pris une décision qu'il y a des gens qui agissent de manière injuste qui sont mis à la tête. Donc, on termine. Ça, c'est le Babu Sabr, le kitab sur la patience, alhamdoulilah, composé de... On a résumé le Babu Sabr en 22 ou 23 hadiths à peu près. Allah Ta'ala nous a donné le tawfiq de compléter. Qu'Allah Ta'ala nous a donné le tawfiq de tirer les leçons qu'il faut de ce grand chapitre. Qu'Allah nous accorde les qualités requises, ce qu'on a cité dans le chapitre. Et qu'Allah nous protège également des épreuves. Il ne faut pas demander à Allah le Sabr, non. Il ne faut pas demander à Allah de nous éprouver pour pouvoir être patient, pour avoir les récompenses du patient, non. Personne ne sait à quel degré il peut supporter les épreuves. On demandera de nous protéger des difficultés. Et si Allah nous a éprouvés d'une quelconque manière, qu'Allah donne la possibilité de venir à bout des difficultés et d'avoir la patience, d'avoir la réaction qu'il faut, quoi que nos degrés soient augmentés et qu'Allah nous accepte. Donc, le résumé qu'on a vu aujourd'hui, c'est le respect qu'il doit y avoir dans les deux sens. Tant le Amir par rapport au Ra'iya, à la population, tant la population par rapport au Amir. Et que le musulman, en aucun cas, il ne doit semer le trouble. D'accord ? Et il doit prendre l'habitude de lever les mains et demander à Allah la nusrat, l'aide, et faire une analyse de ses actions et essayer lui-même de corriger ses actions. Qu'Allah nous accepte notre fait de comprendre, de faire amal, de propager à nos mères et à nos sœurs. Inch'Allah, bon, pour ceux qui peuvent venir, Inch'Allah, à partir de demain, on va reprendre également les programmes sur les signes de la fin des temps. Et pendant 7 semaines ou 8 semaines, Allah nous a donné le tawfiq de parler de l'histoire du qissa de Imam al-Mahdi. De Al-Mahdi, et on a terminé avec ce chapitre également, alhamdulillah, et demain, inshallah, sur Saint-Denis, on va commencer le chapitre concernant l'Antéchrist, Al-Masih al-Dajjal. Qu'Allah nous accepte, subhanallah, rabbika rabbil izzati. سلام على المرسلين والحمد لله.